Je me remets. Hein. Peu à peu, je me remets. Hein. Mais ce froid dehors, et ce vent qui ne se calme pas, qui m'empêche de dormir, enfin, de m'assoupir. Ah, putain, je crois que je deviendrai fou. Genre. En tout cas, je vous remercie d'être venus ce soir, d'être tous là autour de moi, tous, autant que vous êtes. Permettez-moi de vous dire que malgré tout, et quoi qu'il arrive désormais, je ne vous oublierai jamais. Votre chaleur me réconforte. Et je vous aime. N'importe quoi! Excusez-moi, je crois que je suis malade. Une sorte de nausée cervicale. Vraiment, ça tombe mal. Excusez-moi. Comme si quelqu'un me suçait le cerveau de l'intérieur, m'aspirant la moelle épinière. Quelqu'un, ou peut-être moi-même. Comme si je me suçais moi-même la tête de l'intérieur, passant ma langue mentale sur les rebords internes de ma boîte crânienne. Tu vois, une sorte de slurp mental. C'est pour cette raison que ça tombe mal. Voilà, voilà. Plus bon, moi, je n'ai pas la force de faire de la philosophie. Hein. Je n'ai pas la force de faire de la politique. Je n'ai pas la force de ne pas regarder la télévision. Je n'ai pas la force d'aller soigner les blessés. Quoi. Je n'ai pas la force d'aller m'occuper des sans-abri. Enfin bref, je n'ai pas la force de résoudre les problèmes de notre monde. Alors, je me laisse entraîner par des histoires qui me rentrent dans le cerveau et qui ont de la peine à en sortir. Il en reste toujours des bribes, des fragments, des débuts, des fins. Parfois, un type qui parle tout seul. Je m'en sers pour mon numéro. Je m'en sers. Mais des fois, je suis sec. Ça vous arrive pas à vous d'être sec comme ça, hein? Tu es sec. Tu vois? Tu es sec. Eh bien, je suis sûr que même les gens qu'on croise dans la rue et qui vous connaissent pas, eh ben, ils le sentent ça, que vous êtes sec. Hein? C'est un réflexe, hein, de boire, quand on est sec. En plus, tous ces cons qui passent leur après-midi à la plage, là, je t'en foutrais, moi, connard. Oh, est-ce que vous avez été bien hier soir? Mais qu'est-ce que vous avez été bien hier soir? Mais quoi, j'étais bien, ça va, oui, là. Plus minable comme numéro, il n'y a pas. Non, mais c'est rigolo, il n'y a pas plus minable. Pourtant, j'en connais des minables. Ça, j'en connais. Mais plus minable que moi, non, il n'y a pas. Non. Ah, non, il n'y a pas. Non, sans rire, il n'y a pas. L'année où ils avaient engagé le ventriloque avec le canard qui avait les poils, quoi. Ma parole. Tu voyais les lèvres qui bougeaient. Oh, mon con, c'est pas du boulot, ça. Alors, ils mettaient une cigarette, là, parce que c'est un truc qu'ils ont, là, les ventriloques, de mettre une cigarette ou une pipe, ou je sais pas, ou de mettre quelque chose, enfin, un truc, je sais pas quoi, voilà, pour s'empêcher d'ouvrir la bouche, quoi, tu vois. Eh bien, lui, la cigarette, pouf, elle tombait, quoi, tellement il bougeait les lèvres. Tu vois le tableau, quoi, tu vois, pouf, elle tombait, je le croyais pas, là. Voilà. Alors, tu vois un ventriloque avec un canard hideux, hein, que même sa cigarette, pof, elle tombait tellement il n'était pas ventriloque, eh ben, il lui faisait un tabac. Quoi. Ah, tu crois ça, tu... Bon, le chic chez les ventriloques, c'est de ne pas bouger les lèvres. Bien sûr, ben, sinon tout le monde il est ventriloque, alors, hein, bien sûr. Et puis aussi, bonjour, sans cacher la bouche par des artifices. Hein, c'est le chic. Hein. Mais il y en a, hein. Et puis, ils se coincent la bouche en serrant quelque chose entre les dents. Hein. Ça se voit pas vraiment. Bon, mais ça c'est un peu moins chic. C'est un peu moins chic, mais c'est chic quand même, c'est chic. Mais le vrai chic, c'est avec rien, avec le ventre seulement. Hein. Mais ça c'est rare, hein. C'est rare. Il y en a peut-être un ou deux au monde, je vois. Eh ben, même le dernier des ventriloques, il fait un tabac. Alors moi, je vais aller me fatiguer, moi, tu vois. Oh là. Écoute. Il rentre complètement sous de la plage. 12 heures de soleil à cuire, je vois. Ah, donc, que tu les vois devant toi, que presque toi aussi tu bronzes rien qu'à les regarder, je vois. Oh, tu te trouves à être cassé le tronc, je vois, toi, pétard. Je vois. En plus, bon, il faut se renouveler, quoi. Genre. Alors forcément... Au début, mon numéro, il était valable, hein. Mais à force, j'ai sombré dans la facilité. Voilà. Le succès facile vous détruit le véritable artiste. C'est ce que je dis toujours, moi. Je dis toujours ça, moi. Le succès facile détruit le véritable artiste. Je dis toujours ça, monsieur. Mais les gens ne comprennent pas. Donc, bon. Donc, je passe donc l'après-midi à répéter en vain un numéro idéal de comique muet, quoi. Voilà, c'est une sorte de sommet de l'art dramatique, quoi. C'est une sorte de comique télépathique. Voilà, difficile à expliquer. Elle est très difficile, difficile. Sans un mot, je ne bougerai pas. Mais ça se passerait dans la tête. Alors je rentrerais comme ça sur scène, hein, et il ne se passerait rien. Ce serait du comique muet. Pas du mime, non, pas du mime. Non. Du comique muet. Le public rirait tout seul. Quoi. Télépathiquement. Je répète tous les après-midi pendant que les autres ils se baignent. Là, Oh là là. Bon, alors, quand je rentre sur scène, comme chaque soir, après avoir traversé les coulisses, les petites coulisses, où la poussière s'est accumulée, comme on dit des accumulateurs, tellement il y en a, derrière le rideau qui bouge, il bouge. Pourquoi il bouge? Mais c'est à cause de la fenêtre de la loge du ventriloque. Elle a le clapet qui ferme pas bien. Ah, comme il a la manie, par contre, de fermer sa porte à double tour, parce qu'il a peur qu'on lui pique son canard. Que je vais te dire, on te le donnerait son canard, mais t'en voudrais même pas pour donner l'abbé Pierre. Ah non, mais tu le verrais, le canard. Tu le verrais, c'est irracontable, le canard. Ah non, mais sans blague, à l'abbé Pierre, si tu lui envoies, mais tu le renvoies à la gueule. D'abord parce qu'il voit pas que c'est un canard de ventriloque, Tant qu'il n'a pas la main dedans, c'est tout mou, on dirait une sorte de poil, quoi, de tas de poils, c'est immonde. T'es une sorte de toque en fourrure sale qui ne pourrait même pas servir de chapeau, voilà, c'est indescriptible. Eh ben, que même l'abbé Pierre, il en aurait peur, quoi, il te regarderait ce tas, quoi, avant qu'il sache que c'est un canard de ventriloque, Il a le temps de faire trois fois le tour de la sacristie, le pauvre. Enfin bon, paix à son âme, oui, bien sûr. Bref, bon, sous sa porte, quand il la ferme, il reste toujours un petit espace qui, lorsqu'il est à l'intérieur, laisse passer un ray de lumière. Mais assez grand tout de même. Oui, bien sûr. Il faut qu'il se prépare, c'est ça, qu'il se prépare. Qu'il enfile le canard. C'est le mot, enfilé. J'en peux plus. Non. Avec la main, là. Non, j'en peux plus. Le canard. Non. Enfin, le manchon à poil, quoi. Bon, bref. Quoi. Eh bien, il oublie toujours de fermer sa fenêtre. Qui, à sa décharge, n'a pas un système de fermeture très, très adéquat. Hein. Le rideau tremble. Il frémit. Saloperie de canard. Alors, de l'autre côté de la salle, il se taise. Et au fur et à mesure que la lumière de la salle descend, la musique, inversement proportionnelle, monte, elle. C'est calculé. Je suis moi-même dans le noir rosissant, comme dans un coucher de soleil qui durerait toute la vie. Sincèrement, je pense que pour moi, c'est le meilleur moment du spectacle. Mais enfin, bon, il faut bien venir interrompre cet instant de charme et de vide pour pénétrer dans le rond de lumière qui cercle le rideau. La chaleur de cet instant névralgique et insoutenable. Et voici celui qui vous attendait tous. Tu parles. Le prince, que dis-je le prince? Le roi, que dis-je le roi? L'empereur des ventriloques, j'ai nommé... Ronald et son merveilleux canard. Ce qu'on n'est pas obligé de faire pour gagner sa vie. Heureusement que je suis gentil et que je leur précise que c'est un canard et qu'il est ventriloque. Parce que sinon les gens ils se demanderaient mais qui c'est ce type qui vient passer la serpillière en soliloquant au beau milieu du spectacle? Ce bruit là, c'est la VV du ventriloque qui part dans la nuit à l'autre bout du département. Il a une fiancée. Tous les jours, il va la rejoindre. Hé, hey, t'as pas oublié ton canard, hein, salaud? Un jour, je l'ai suivi. Je voulais savoir où il allait. J'avais loué une voiture comme ça pour le suivre. Tu te rends compte que je me demandais comme ça où il partait tous les jours à la même heure. Tous les soirs, là, à la même heure. Tu vois pas qu'il aille ventriloquer ailleurs? Dans un endroit que je connaîtrais pas. Ça me travaillait, ça. Ça me travaillait. sur une petite route de montagne, on est arrivé à un chalet. Un chalet, voilà, un petit chalet. Je me suis garé sur le bas-côté et j'ai continué à pied. Lui, il est entré, quoi. J'ai fait le tour du chalet et là, j'ai entendu une engueulade. Une de ces engueulades, je vois. Sa fiancée, elle hurlait, quoi. C'est à ce temps-ci que tu rentres, oui. C'est à ce temps-ci que tu rentres. Tu vois pas qu'il avait oublié de lui dire qu'il était ventriloque? C'est ce que je me suis dit, je vois. Eh bien non, pas du tout, en fait, non, pas du tout, non. J'ai bien regardé par la fenêtre. Dis donc, il était tout seul. Il s'engueulait tout seul. Il faisait en ventriloque sa fiancée qui l'attendait et qui l'engueulait, quoi. Oh putain, ça. Une furieuse envie de normalité, peut-être. Attends, il faisait froid, alors moi je suis rentré, toi. Oh puis attends, je voulais pas me recevoir le canard dans la figure à travers la fenêtre. Non. Alors je suis revenu à ma voiture et j'ai roulé toute la nuit. Non mais ça, je l'invente. Hein. Je l'invente, c'est inventé, ça. Hein. C'est ce que j'imagine. Hein. C'est de l'imaginaire. Que j'ai roulé toute la nuit, non. Hein. Mais qui faisait sa fiancée en ventriloque, si, je peux pas m'empêcher. C'est plus fort que moi, je... Excusez-moi, je... Excusez-moi, je me remets, hein. Je me remets. Et oui, non mais attends, il faut être précis, quoi. Eh oui, il faut être précis, quoi. Le drame dans les récits, hein, c'est quand les gens ne sont pas précis, quoi. Voilà. Du coup, il y a des imprécisions. Voilà, il y a comme des sortes de fentes. Et ça, c'est terrible, les fentes dans les récits. Hein, parce que je vais vous dire, c'est quoi le destin d'une fente, hein? Eh ben, chut, c'est de s'agrandir toujours. Ah, vous ne verrez jamais une fente se refermer toute seule. Ah, ça, non. Dès que vous voyez une fente, vous n'avez qu'une seule chose à vous dire, c'est... Oh, coquin de sort, la fente, elle va s'agrandir. Eh, il serait idiot, hein, le moindre observateur qui penserait... Oh, tiens, une fente. Attendons qu'elle se referme. Mais non. La fente, inéluctablement, s'agrandit, quoi. Par le bas, par le haut, par où elle peut, quoi. Mais elle s'agrandit. Puis elle devient une grosse fente. Puis se transforme en interstice. Puis en gros interstice. Et puis arrive le jour où vous pouvez presque mettre le doigt dedans. Alors là, c'est grave. Parce que 2 ans après, hein, il vous suffit d'insister un petit peu. Et puis, c'est la main que vous passez à l'intérieur. Alors... Et puis, il vous suffit d'attendre, les années passant, c'est plus la main ni même le bras, hein, mais c'est vous, tout entier, qui pouvez passer de l'autre côté. Alors là, c'est plus que grave, Ah oui, mais c'est comme ça que ça se passe dans la réalité, quoi. Eh bien sûr, non. Alors, dès qu'il y a une petite fente dans un récit, vous imaginez que ça peut donner, la ribambelle de personnages, d'animaux, de maisons même, qui peuvent se faufiler par là. Hein. C'est pour cela qu'un récit doit être serré au plus près de la réalité. Qu'il nous faut chasser la moindre petite fente, la reboucher immédiatement, tout à fait incessante, hein, de peur de voir apparaître des je ne sais pas quoi. En fait, de voir apparaître des choses qui ne devraient pas y être. Voilà. Tiens, par exemple, moi, avec ma famille. Oui, parce que j'ai une famille. J'ai l'air comme ça, seul, pas entouré. Mais non. J'ai une famille. Eh bien, ils pensent exactement le contraire de moi. Et pourtant, c'est ma famille, hein. Eh bien, c'est pour ça que j'ai l'habitude et que ça ne me fait pas peur d'essayer de convaincre les populations. On m'appelle exprès même pour ça, hein, pour les populations, je veux dire. Pour les bouseux, quoi. Les gens qui ont le plafond au niveau du fémur, quoi. Et puis ça, c'est pour moi, c'est comme ça. Alors j'arrive comme ça, comme au début, là, et puis je commence à raconter n'importe quoi. Bon, ça, c'est le système, je vois. Alors tout de suite, les appariteurs, ils se rendent bien compte de ceux qui suivent et de ceux qui ne suivent pas, je veux dire. Hein? On les coche. Ils sont photographiés. Et comme ça, on a leur portrait pour bien repérer les vrais abrutis. Et bien ça, c'est mon métier, ça. Repérateur de cerf-volant. De cerveau, là. Alors après, on fait des albums. On colle toutes les photographies. Alors là, on rigole. Alors là, on rigole. On se gondole à fond, je trouve. Leur poids, là. Non, faut dire qu'il y en a qui font de ses têtes. Alors, comme ils comprennent pas, forcément, ils ouvrent un peu la bouche, comme ça. Et on leur voit tout l'intérieur, hein, les glandes buccales, les doubles vestibules, la descente carminée. Et des fois même, on leur voit les tendons, juste debout, hein, juste le bas des tendons qui tiennent tout le cervidé, quoi. Le cervidé droit et le cervidé gauche. Hein. Et au milieu, il y a l'eucalyptus. Et c'est là qu'ils rangent tous leurs souvenirs, toute leur petite mémoire, toute leur petite cochonnerie, quoi. Hein. Ce qu'ils ne veulent dire à personne. Hein. Et bien nous, ça, on a le moyen de le leur voir. Pauvres malades. Alors après, les albums, on les enferme dans des bourgos, avec du formol, hein, et puis on les pose sur les étagères, et la nuit, on y va en douce, et on les regarde. Alors, c'est tout de même pas à moi qu'ils vont apprendre quoi, hein? Non, mais c'est vrai, quoi, non? Il y en a qui restent là, hein? Vous restez là, coupez pas, restez, on va commencer, d'accord? On va réellement commencer, voilà, on commence, voilà. Voilà, on commence. Bon. Alors, tiens, ça c'est mon papier, voilà, j'ai mon papier, voilà. Ça, c'est ce que je dois lire avant de lancer la tranquillisation. Oui, parce que moi je suis tranquillisateur. C'est-à-dire que là où il y a des gens inquiets, hein, eh ben, on m'envoie, et une fois que je suis passé, les gens, ils se tiennent tranquilles. Parce que j'ai su leur insuffler la confiance, voilà quoi. De la confiance naît la stabilité. Hein. Et que demande autre chose que le commerce, que la stabilité, hein? En effet, imaginez que vous ouvrez un petit magasin de fruits confits. Votre but, c'est quoi, hein? C'est de vendre des fruits confits, hein? Bon alors maintenant, imaginez, que toute la journée, vous voyez passer devant votre boutique... Toute la journée, des gens qui disent bah, « Ils sont mauvais, ces fruits confits. Ah, je déteste ça, les fruits confits. Ah, ne lui achetez pas ces fruits confits, vous savez pas d'où les faire venir. Ah ben moi, j'ai travaillé 2 mois aux fruits confits, je veux dire, c'est une véritable catastrophe, vous savez pas ce qu'ils vous foutent là-dedans. Non. Ah, depuis que j'ai bossé là-bas, moi, j'en achète plus, hein, c'est sûr. Hein. » Vous voyez très très vite que vous n'allez pas être très très content. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Eh bien, il y a 2 solutions. Ou bien... Au lieu de vendre des fruits confits, vous décidez de vendre des roues à aube. Hein? Eh ben, vous n'aurez plus aucun problème avec les gens des fruits confits. Voilà. Par contre, vous risquez d'avoir de très très gros problèmes avec les gens qui ont travaillé aux roues à aube. Hein? Donc, c'est pas la bonne manière de faire. Non, c'est pas celle-là. Non, il faut prendre la 2e solution. Voilà. Vous continuez à vendre des fruits confits. Seulement, vous engagez quelqu'un qui va se mettre devant votre boutique et qui va commencer à se mettre, il va se mettre à parler avec les gens qui passent devant, quoi. Monsieur, ils sont bons les fruits confits, hein. Vous avez goûté les fruits confits là. Et vous, il faut merci. Ah, madame, les fruits confits. Goûtez les fruits confits. Ce sont les meilleurs du pays. Vous goûtez demain. Ouais, d'accord. Voilà. Et ben voilà. Et ben ça, c'est un tranquillisateur. Et ben. C'est moi. Bon, j'ai commencé à faire ça avec les courroies de transmission des Vespa 400 à Limoges. Je les ai tranquillisés, quoi. Plus personne ne voulait en acheter parce que ça sautait toujours. Dès que tu tournais à gauche, t'avais le volant qui se fendait en 2 une fois sur 3. Alors moi, spontanément, j'ai proposé mon aide à monsieur Arbelin, de l'usine Saint-Offert. Il m'a dit, je vous prends l'essai. Eh ben, j'ai essayé... Et j'ai tranquillisé toute la région nord-est de Limoges. Bon, comme ça a bien marché, je suis monté en grade. Il se trouve que le frère de la femme de monsieur Arbelin, hein, avait une usine à Charleroi qui transformait le latex. Mais ça puait dans toute la région. Oh, mais c'était une horreur, quoi. Vraiment, ça puait, mais ça schlinguait grave. Eh ben, ils m'ont envoyé là-bas, quoi. Et moi, en moins de 6 mois, j'ai tranquillisé tout Charleroi. Automatiquement, ça m'a donné des points. Hein. Et là, ils m'ont mis aux fruits confits. Quoi. Bon, alors c'est un peu dur au départ parce que là, j'étais tout de même obligé d'en manger un petit peu, quoi, des fruits confits. Hein. Eh bien, je vais vous dire. Hein. Mais c'est dégueulasse! Vous savez ce qu'ils vous mettent là-dedans? Mais c'est une horreur! Mais c'est violent! Mais j'ai attrapé la dingue! C'est violent! Mais enfin bon, j'ai réussi. Moi, j'ai réussi. Vous n'avez jamais entendu parler de quelqu'un qui aurait dit qu'il y aurait eu des problèmes avec les gens des frics confits, hein, avec les frics confits. Jamais, quoi. Jamais. Et ben c'est grâce à moi. Disons que c'est un peu mon bâton de maréchal, quoi, les frics confits, voilà. Mais bon, c'est remonté très très haut, genre, hein. C'était vraiment très très haut. Tiens, pendant tant qu'on est dans la chaîne alimentaire, là, hein, savez-vous de quoi ils se servent pour faire de la gélatine alimentaire? Non? Non? Vous... Eh bien, je vais vous le dire. Ils se servent des cadavres des pauvres hindous. Incroyable! Et pourtant, c'est la vérité, quoi. Tous les mois, un bateau arrive à Marseille. Il transporte des os humains. Ce chargement est transféré dans une usine de la région, et là, les os humains sont mélangés avec des carcasses d'animaux. Dans cette usine, on fabrique deux sortes de gélatine, on produit deux sortes de gélatine. La gélatine alimentaire pour mettre... qu'est-ce que je raconte ? La gélatine pour mettre sur les pellicules photographiques, hein, et puis il y a aussi la gélatine alimentaire, voilà, la fameuse gélatine alimentaire dont vous goinfrez tous les jours quand vous avalez des œufs en gelée ou du pot-au-feu ancien je sais pas, ou même des bonbons anglais, quoi, voilà. Et bien voilà comment la maladie de l'encéphalite spongiforme bovine est passée de l'animal à l'homme. C'est dans ces bains putrides que les prions ont muté. Ils ont muté, oui. On a commencé à donner à manger aux vaches, qui sont herbivores. Hein, du mouton broyé qui était malade de la tremblante, mélangé à des carcasses de bovins. Le prion est donc passé du mouton à la vache. Et ensuite, on a mélangé les carcasses de ces vaches malades avec des os humains qu'on a donné à manger aux hommes. Et c'est ainsi que le prion a franchi la barrière de l'espèce et peut maintenant s'attaquer à l'homme, c'est-à-dire... Vous et moi. Enfin, surtout moi. Surtout moi, je... Bérégovoy, à qui j'avais écrit à l'époque un petit rapport sur la question, avait rendez-vous avec moi le matin du 1er mai fatal. Sur une vidéo amateur, on le voit remettre un bouquet de fleurs au vainqueur d'une course cycliste à Nevers. Le matin du drame. Je m'étais inscrit à cette course cycliste, pour participer à cette course cycliste, et je devais logiquement gagner cette course pour entrer enfin en contact avec lui sans attirer l'attention. Malheureusement, dans le sprint final, à 200 mètres de l'arrivée, un néerlandais amateur avec le maillot de l'équipe GAN, gélatine, alimentaire, Nevers, m'a envoyé valdinguer dans les balustrades. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, j'ai appris que Béret s'était suicidé avec le revolver de son garde du corps. Depuis ce temps, j'ai cherché à retrouver la trace de ce garde du corps, qu'on voit aussi sur la vidéo amateur. Mon raisonnement était très simple. Ou bien ce type était maintenant au chômage, à cause de cette faute professionnelle grave, et on pouvait penser légitimement que Pierre s'était effectivement suicidé. Ou bien ce type était toujours garde du corps. Et c'était bien la preuve qu'il était en mission au moment du meurtre du Premier ministre. Il y a 15 jours, j'ai enfin réussi à retrouver sa trace. Il est vigile à l'usine de gélatine alimentaire. Can gélatine alimentaire, Nevers. Maintenant que je vous ai donné tous les éléments qui étaient à ma possession, c'est à vous de jouer. Sortez-moi de là. Faites des pétitions, écrivez des articles de journaux, je sais pas, hurlez, foutez le bousin, je veux dire, hein. Pour ça, qu'est-ce que vous attendez, quoi. Je peux pas tout faire, moi. De toute façon, c'est à votre intérêt, hein. C'est à votre intérêt, parce que, pour moi, c'est déjà trop tard. Je suis déjà au dernier stade de l'encéphalite spongiforme bovine. J'arrête. Je vais commencer à faire une grève de la faim. Eh oui, allez, enfin, de la faim. De la FIN, de la faim, quoi. J'arrête. Oui.